et son clin d'œil efface le monde. Jacques Barbéry. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à Nantes en ce samedi à l'occasion de la 20e édition des Utopiales, festival international où science et fiction depuis deux décennies échangent et interagissent. Un festival qui accueille cette année notamment Hélène Kouchner et Joe Walton. Un festival qui permet également aux forces vives de l'imaginaire francophone de compter leurs forces et de festoyer abondamment. Bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toutes et à tous, et notamment au public des Utopiales, venus nombreux pour cet enregistrement, de même que pour tous les enregistrements des émissions de France Culture, un public que j'applaudis et que je salue. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci d'être présent à cet enregistrement de Mauvais Genre. Alors cette année, la thématique générale du festival Utopial, c'est coder, décoder. Et puis je ferai un détail plus précis des invités et des événements que vous trouverez également sur notre site. En tout cas, pour cette émission précisément, je reçois d'abord Jacques Barbéry qu'on applaudit. Quel succès, quelle popularité. Jacques Barbéry, qu'on ne présente pas aux Utopiales, mais dont on doit dire nommément qu'aujourd'hui il est largement édité et réédité aux éditions La Volte et qu'il est avec nous ce soir pour L'Enfer des Masques, donc publié par Mathias Echter aux éditions La Volte. Il sera en compagnie de Ludovic de Boerm, qu'on applaudit, il n'y a pas de raison, voyons, voyons. Alors Ludovic de Boerm, c'est un habitué de Mauvais Genre, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis 2003, à qui l'on doit un magnifique dessin d'ailleurs à l'occasion de nos 20 ans et qui ce soir est avec nous pour le troisième volet de sa série Epiphania, publié aux éditions Casterman, et on verra à quel point d'ailleurs les thématiques de Jacques Barbéry et les siennes se croisent et se retrouvent également leur amour commun de la musique. Et à ma gauche, qui a-t-il? Il y a Xavier Montméjean. Allez, eh oui. Alors, Xavier Montméjean, très présent dans ce festival, puisque demain, dimanche 3 novembre, on vous trouvera à 10h30 pour parler d'adapter à la radio et au cinéma. C'est vrai que c'est un sujet que vous connaissez bien. Votre présence sur France Culture est récurrente dans les fictions. À 12h, vous parlerez du code de la sexualité et du script à la liberté. C'est quoi ça, monsieur Xavier Montméjean?
Par exemple, savoir que la pornographie aux États-Unis, depuis le Compton Act de 1847, ne concerne que les jeunes hommes. Il ne faut pas avilir les jeunes hommes, les jeunes femmes, on en fait ce qu'on veut.
Ah
c'est
oui.
Ça, voilà.
Et donc c'est le sujet précisément de ce débat.
Vous serez d'ailleurs
avec Baptiste Beaulieu et Morgane Cossarieux. C'est demain à 12h. Et puis à 16h, c'est Léonard de Vinci qui sera le sujet. Vous avez un rapport privilégié avec Léonard de Vinci?
À plus d'un titre, ne serait-ce que pour l'influence sur le steampunk. Oui, bien sûr, oui, l'homme universel.
Jacques Barbéry, Léonard de Vinci, est-ce que c'est une figure qui traverse vos cogitations, vos romans, vos nouvelles? Est-ce qu'il apparaît ou disparaît dans...
Oui. Relativement, c'est un personnage multiple qui a œuvré sur des horizons divers et variés, aussi bien scientifiques qu'artistiques que poétiques. Donc oui, c'est quelqu'un qui me touche particulièrement, oui.
Ludovic de Boerm.
Léonard de Vinci,
ouais, l'architecte que vous êtes, secrètement l'architecte de l'imaginaire.
C'est ça, c'est un personnage ambivalent qui a à la fois cette espèce de projection fantastique dans l'imaginaire créatif, mais aussi destructif, qui a quand même œuvré un peu dans tous les sens. Et puis dans cette foi dans le progrès, cette foi occidentale dans le progrès, qui nous questionne tant aujourd'hui.
L'inventeur de machines vous séduit?
J'aime les dessins des machines, plus que les machines.
Et l'anatomie?
L'anatomie, j'avoue avoir regardé quelques-uns des écorchés de Léonard de Vinci pour apprendre les muscles que je n'ai pas osé moi-même regarder de plein fouet.
Jacques Barbéry, Ludovic de Boerm et Xavier Montméjean sont donc les trois invités ce soir de Mauvais Genre qui est présent au 20e Utopial de Nantes.
Mon ami s'appelait comme vous, Ron. Je devais le rejoindre sur Proxima.
Cocktail d'étoiles, composition donc du groupe Palo Alto, qui est le groupe de Jacques Barbéry et qu'on peut trouver lié d'ailleurs à un des offert en même temps qu'un des tomes, le premier, je pense, de la trilogie Narcos, une trilogie romanesque que vous publiez, publiée à la Volte. On peut dire, attaquer, on va, au lieu de classiquement de prendre, d'abord c'est un portrait de Jacques Barbéry par la littérature, les grandes étapes de votre inspiration, est-ce qu'on peut évoquer un peu votre rapport à la musique? Puisqu'il est un peu complexe, il y a à la fois le jazz, il y a le rock, et puis toute la musique contemporaine, j'entends musique contemporaine, musique de la Belle Époque, le modernisme des années 1900, Jacques Barbéry.
Oui, d'abord, faudrait que je dise qu'en fait, il y a une... Walter Pater dit que tout art aspire à la condition de la musique. Et en fait, c'est un petit peu ce que je pense, c'est-à-dire que la musique a une sorte d'évidence, en fait. C'est une expression qui peut être totalement spontanée. Et moi, j'adore particulièrement improviser, faire de l'improvisation, et ça permet une liberté absolument totale, quoi. Donc, la musique me permet d'avoir une forme d'expression pour moi absolue, quoi. Je suis pas spécialement, je suis pas musicien professionnel. J'ai une technique musicale relativement limitée, mais lorsque je commence à improviser sur un saxophone, il y a une espèce d'alchimie qui se produit. Et j'ai l'impression de passer ailleurs et d'être capable de produire des sons et un univers musical.
Donc c'est plus du domaine de la trance.
Oui, c'est plus du domaine de la trance, effectivement. Oui, c'est plus du domaine de la trance, c'est plus du domaine de l'expression de soi, du dépassement soudain de soi par le biais de quelque chose qui apparaît comme ça, un petit peu magique, un petit peu alchimique.
Et quelles sont vos sources justement dans cette pratique de la musique? Est-ce que c'est par exemple le free jazz américain, les Albert Heller, les Archie Shepp, les Coltrane, ou est-ce que c'est bien
non, au contraire? Non, en fait, j'ai un parcours assez curieux parce que mes premiers chocs ont été des chocs musique concrète en fait, plutôt musique expérimentale, Pierre Henry, Ligeti, Xenakis, Bouchoureyev, voilà, musique contemporaine. Puis je suis passé à une musique plus classique et en fait là j'ai eu un choc absolu avec le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven qui m'est apparu comme quelque chose de SF,
de transcendantal,
de transcendantal. Voilà. Et les symphonies de Mahler comme des grandes architectures monumentales dans lesquelles on pouvait se perdre. Et puis petit à petit je suis allé vers le... Au début j'avais besoin de quelque chose d'assez complexe en fait, et la musique classique m'a amené cette complexité. Puis je me suis rendu compte que le jazz et le rock étaient aussi en fait très complexes, très riches et très et surtout beaucoup plus direct, beaucoup plus primal en fait. Et finalement je m'intéresse à toutes les formes de musique.
Vous écrivez en musique.
De l'easy listening jusqu'à la musique concrète, ouais. Quoi.
Vous écrivez en musique, Jacques Barbéry?
Alors, j'écris en musique et j'ai besoin, en fait, de la musique pour pouvoir canaliser mon imaginaire. Parce que sinon, il part un petit peu dans tous les sens et la musique me occupe une partie de mon cerveau, même si ça devient sous forme un peu inconsciente. Et là, j'arrive à me canaliser. Sinon, je commence à imaginer tout un tas de trucs et j'ai du mal à rester concentré sur le chapitre que je suis en train d'écrire.
Ludovic de Burme, vous qui êtes un virtuose de la guitare jazz, comment fonctionnez-vous justement avec la musique?
Il y a beaucoup de parallèles, parce que moi, ma mère était enseignée le piano, donc il y avait un piano à la maison, et mon plaisir c'était d'improviser sur ce piano, sur ces fameuses touches noires, la gamme pentatonique qui sonne quasiment toujours bien, et je pouvais rester des heures dans le noir comme ça, enfant, improviser. Mais en même temps, elle avait décidé de m'enseigner le solfège. Finalement, j'ai choisi le dessin, qui était la pratique de mon père, qui était artiste peintre, au grand dam de ma mère. Et je suis revenu par le biais de la guitare à l'improvisation parce que mon père m'amenait tous les samedis à la chope des puces de Saint-Ouen, toujours d'ailleurs, des manouches qui jouaient du Django, et c'était la Django Reinhardt, c'était la musique qu'on passait à la maison. Donc c'était le premier truc que j'ai eu envie de jouer quand les doigts m'ont permis de le faire vers 17 ans. Et après, j'ai remonté étrangement comme ça l'histoire du jazz, du swing, du bop, du hard bop, du jazz modal. Alors, il y a eu un passage un peu difficile, c'est quand j'ai commencé à devoir découvrir un peu plus loin ce qu'était que l'harmonie contemporaine. Donc là, il a fallu. Puis j'ai fait tout ça en autodidacte. Donc c'était parce que j'ai décidé de ne pas me servir du solfège, et avec toujours cette idée que l'improvisation, c'était vraiment ce qui me motivait. J'avais pas beaucoup d'intérêt à jouer les thèmes, bien sûr on les joue, mais au fond c'était ça, quoi. Puis finalement je suis arrivé à la musique improvisée, j'ai commencé à côtoyer toute cette scène qui à ce moment-là était en pleine effervescence, parler de l'Olympique Café ou des choses comme ça. Et puis après, j'ai découvert que dans la musique improvisée, il y avait aussi des codes, malheureusement. Il y avait des climax, des trucs qu'on retrouvait.
Jacques Barbéry, d'accord, pas d'accord?
Je généralise pas. Je pense qu'il y a des gens qui, j'ai vu des choses merveilleuses et je continue de faire des choses merveilleuses en musique improvisée. Mais
c'est-à-dire quand c'est dans le free jazz, par exemple, on se retrouve tout de suite avec des codes.
C'est ça. Et voilà. Donc voilà. Je suis revenu à mes origines, on va dire rock, velvet, etc. De mes 16 ans. Et puis je me suis dit au bout d'un moment, en fait, y a peut-être moyen de à la fois faire des morceaux, mais garder cette part d'improvisation qui est pas que de l'improvisation au sens mélodique de solo, ça peut l'être, mais aussi juste d'inventer un morceau en fait en live. On essaie de garder ça au maximum.
Alors Ludovic de Berme avec nous pour le troisième volet d'Epiphania et donc Jacques Barbéry pour l'Enfer des masques à la Volte, donc texte paru cette année. On peut donner un portrait, Xavier Mauméjean, de Jacques Barbéry au sein de la littérature française dite de l'imaginaire, comme on l'expression du moment là.
On commençait en ouverture d'émission en parlant de Léonard de Vinci. Moi, je dirais que Jacques Barbéry est un auteur sfumato. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la ligne, dans la coupure, dans la séparation, mais bien au contraire dans le mélange des chairs, du métal, des niveaux de conscience aussi. C'est un auteur important et c'est quelqu'un qui, à mon avis, est moins caractérisé par le délire. C'est facile de te parler de délire, alors que, au contraire, pour moi, Jacques Barbéry, c'est un peu comme quand vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, et il y a un ascenseur, et vous savez prendre l'ascenseur, parce que, tout simplement, vous oubliez les caractéristiques des précédents ascenseurs, et vous savez, Jacques Barbéry, c'est un peu ça, par analogie, il nous donne les codes de nouveaux mélanges, de nouveaux apports, de nouveaux télescopages du réel, et en ce sens-là, c'est un découvreur. Alors, par contre, moi, il y a une question que j'aimerais poser à Jacques Barbéry,
c'est le moment.
Dans ces nouvelles analogies, dans ces rapprochements inattendus du réel, moi, je trouve, par exemple, dans Mémoire du crime ou dans Le tueur venu du centaure, qu'il y a une structure policière, et pas de n'importe quel policier, mais plutôt du hard-boiled, me semble-t-il, de Chandler et de Hammett. Et je voulais savoir si elle vous est nécessaire, cette structure.
Alors, Jacques Barbéry, réponse.
Oui, elle m'est nécessaire. Bon, d'abord, j'aime le polar, le thriller. Donc, même si je suis plutôt enclin à écrire de la SF, c'est un genre qui m'intéresse et que j'ai envie d'intégrer dans mon écriture. Mais oui, elle me sert, en fait, à structurer une histoire. C'est ce qui me sert à la structurer pour permettre d'établir ensuite, de pouvoir jouer sur du suspense, sur des cliffhangers, sur une dynamique narrative structurée en fait, et que je travaille beaucoup la structure. Mes récits sont structurés du début jusqu'à la fin, et je reviens sans arrêt sur la structure. Et après, à l'intérieur de cette structure, il suffit de se glisser. Alors là, l'imaginaire peut se donner libre cours et l'aspect science-fictionnel, là je peux aller assez loin en fait, quoi. J'ai toute la place, mais on reste dans une structure effectivement qui peut être comparée à Chandler, à Boyle, le doute face à la société, etc. Mais voilà, j'ai cette structure et j'ai un cadre dans lequel je peux ensuite exprimer des idées beaucoup plus science-fictionnelles et barrées en fait, quoi.
Alors votre œuvre, rééditée largement aux éditions La Volte, se compose d'abord de deux importants volumes de nouvelles. La nouvelle, c'est ce que vous avez donc le genre que vous avez utilisé dès le départ, dès le milieu, à vos débuts, avec Henri-Luc Planchat dans le milieu des années 80. C'était pour vous beaucoup plus la forme que vous élisiez, parce qu'elle correspondait le plus à une espèce de quelque chose de fulgurant, de rapide.
Oui, c'est ça. Il y a une espèce de fulgurance. Il peut même y avoir une forme d'improvisation aussi. Puis on peut se permettre, je pense, beaucoup plus de liberté dans une nouvelle. Le lecteur aura une vingtaine, une trentaine de pages à lire, même s'il y a une certaine complexité, même si, ça peut être tenté. Sur un roman, je pense, et là on revient sur la question précédente, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une structure qui, d'une certaine manière, accompagne le lecteur. Et pas le balancer un peu dans tous les sens. Sur une nouvelle, je crois qu'on peut être plus expérimental, en fait. Un petit peu plus direct, se laisser un petit peu plus aller. Et c'est quand même une autre forme narrative. C'est un petit peu, si on reprend la musique, pour la musique, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu la musique de chambre, quoi. Hein, ça pourrait être une sonate ou, alors que le roman, c'est la symphonie, quoi. C'est une toute autre forme, une forme plus subtile, mais qui, moi, me plaît beaucoup, en fait. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai écrit des nouvelles. J'ai un peu hésité à vraiment passer au stade du roman. J'avais démarré un roman, mais j'avais assez de difficultés à aller au bout, parce que, justement, j'étais toujours sur ce jet un petit peu rapide de la nouvelle, alors que le roman nécessite plus de réflexion, à mon avis, hein. Mmh. Plus de réflexion et voilà, travail structurel beaucoup plus poussé.
Vos grandes lectures de jeunesse, qui étaient Verne, Wells, Rimbaud ou Lautréamont, il y a deux maîtres essentiellement qui vous ont marqué, c'est Dick et Ballard. L'un qui vous a donné ce sens des réalités alternatives,
Dick,
paranoïa,
oui.
D'une espèce d'obsession du contrôle, du pouvoir. Et Ballard, c'est plutôt l'apocalypse. Et un apocalypse qui n'est pas, vous mettez pas en scène des territoires post-apocalyptiques, des territoires interdits, détruits, mais plutôt des sociétés qui se maintiennent à coup de violence et avec des phénomènes de mutation monstrueuse. C'est plutôt ça votre univers, c'est-à-dire une espèce de tentative de s'affronter à des mutations qui sont soit des facteurs de liberté, soit des facteurs de pouvoir.
Oui, ça peut être ça. Effectivement, dans Mondokane, d'ailleurs. Il y a une sorte de cataclysme lié à deux intelligences artificielles qui sont chargées de gérer une guerre et qui, bon, alors on leur a dit surtout pas d'holocauste nucléaire, faites bien attention, sauf qu'elles ont traité le problème différemment, mais on aboutit quand même à quelque chose de particulier. La Terre est ravagée, mais sous une autre forme, une forme plus organique liée aux mutations géoclimatiques, mutations sur les corps. Mais finalement, ce nouveau départ est positif, parce que bon, moi, je pars quand même du principe que l'espèce humaine là est dans une voie un petit peu une sorte de cul-de-sac, en fait.
Dans l'impasse.
Voilà, un petit peu dans l'impasse. Et là, tout d'un coup, cette libération des métamorphoses permet d'aboutir sur de nouvelles formes de vie qui sont plus à même de perpétuer les espèces, parce qu'il y a une diversité d'espèces, alors que là, on a une seule espèce, l'homme, qui est censé régner sur toutes les autres. Non, d'hybridation, symbiose, à mon avis, sont des formes qui peuvent permettre à l'humain d'évoluer vers une voie plus... plus positif que
fondamentalement, Jacques Barbéry, vous êtes un baroque, mais je dis pas un baroque, on dit souvent des écrivains qui aiment bien utiliser des adjectifs qui sont baroques, mais c'est pas du tout votre cas, et en tout cas pas uniquement, c'est simplement parce que vous avez un goût pour le flux et pour la métamorphose, c'est-à-dire qu'en permanence, les choses ne restent jamais là où elles sont, elles se croisent, elles se mélangent, elles mutent, et je dirais c'est une espèce de baroque radical. C'est-à-dire la chose n'existe qu'à partir du moment où elle emprunte une forme qui lui est étrangère. On a l'impression qu'avec vous, les personnages ne sont là, non pas pour se défendre, mais au contraire pour se mêler.
Exact, pour se dilater.
Voilà.
C'est un phénomène d'expansion et d'intégration, et de mélange et de fusion. Et l'immobilité, c'est la mort, quoi.
Voilà. Ludovic de Burme, là aussi, dans la dernière série d'Epiphania, le croisement et les... Le mélange est quelque chose de perçu comme salvateur et rédempteur par rapport à une humanité qui est complètement corsetée dans sa forme traditionnelle.
Oui, là aussi, il y a de l'ambivalence parce que c'est comme si l'hybride, donc ces personnages qui apparaissent, qui sont moitié hommes, moitié animaux, nous rapprocheraient sur ce corps de suprahumain qui pourrait renouer avec le vivant dans son entièreté, une connexion... qu'on a oublié en Occident, parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'on a une vision très occidentale de cette dualité culture et nature, mais un tas de sociétés qui ont un autre rapport encore actuellement, et qu'on a tendance à détruire, enfin, je parle de l'animisme, mais sous sa forme large. Le peuple kanak, par exemple, Nouvelle-Calédonie, a réussi à entériner des lois françaises pour reconnaître cette identité culturelle d'assimilation au vivant. C'est-à-dire que le corail, la mer, etc., font partie du corps même et qui en est indissociable. Donc, cette hybridité, elle est à double tranchant, parce que ces personnages sont humains et animaux, mais ils restent quand même doubles. Et il y a cette espèce, comme ça, on reste dans un naturalisme, en fait, qui a presque qui vient presque de Descartes quoi. On reste quand même dans une espèce de d'entre-deux très occidental. Et au final, j'ai pas tout raconté, mais justement l'évolution au fil des tomes devient plus radicale et de nouveaux personnages sortent de terre et sont radicalement plus organiques en fait, de moins en moins humains. Et d'ailleurs, cette espèce appelée épiphaniane, donc d'enfants mi-hommes, mi-animaux, au bout d'un moment, leur gène commence à péricliter et ils deviennent stériles, ils ont des problèmes de maladie. C'est-à-dire qu'on voit aussi, il y a ce rapport à cette possibilité. On a envie d'échapper via les progrès de la science aux problématiques qui sont elles-mêmes causées par le progrès et le néolibéralisme. Que peuvent connaître notre corps actuellement, de toutes les maladies qu'on connaît dans nos pays occidentaux et non occidentaux, qu'on tente à nouveau de solutionner par des manipulations génétiques. Donc on pourrait parler d'hybridation. Là, on est complètement dans le sujet du clonage, essayer de récupérer un bout de cœur dans un cochon ou un mouton. Et en même temps, on est toujours dans cette vue à court terme et qui empêche surtout de regarder en face le vrai problème qui est celui du système, du paradigme de fond. C'est-à-dire on tamponne en permanence un système qui ne marche plus en tentant de le soigner alors qu'en fait il est malade à la racine.
Xavier Mauméjean.
Il y a chez Jacques Barbieri, chez Ludovic de Gorme une recomposition, une redistribution du réel qui me semble pas conduire à un appauvrissement mais au contraire à un élargissement, un enrichissement. Et par exemple pour Jacques Barbieri, je pensais lorsque vous parliez il y a quelques minutes une sorte de jam session littéraire. Vous me faites penser à votre propre personnage, Harry Boldkin, qui injecte comme ça des shoots littéraires à son public. Mais c'est justement cette capacité d'improvisation dans une structure, elle est essentiellement musicale. Et Ludovic, moi je reviens, il se trouve que de la British Library, il y avait des expositions de manuscrits splendides du Moyen-Âge, des apocalypses. Et j'ai pensé à vous parce que il y a une dimension, mais au sens noble du terme apocalyptique, une sorte de révélation justement d'un réel qui est bien au-delà de la petitesse et de l'étroitesse qu'on en a fait. Et je pense que justement avec Epiphania, vous participez à cet élargissement peut-être sacré du réel.
Ludovic de Berne.
Oui, c'est vraiment la question se pose pour quiconque à un moment sort de cette espèce de déni ou. Voilà, de notre société consumériste, à un moment, et puis découvre la réalité des choses qui est quand même assez catastrophique. Et puis moi, ça a été la chance aussi à la fois de travailler sur plusieurs années sur ces trois tomes, mais aussi de rencontrer des climatologues, des militants, la cause animale, etc. D'avoir tous ces enrichissements. On passe par des phases très différentes et des phases profondément dépressives, c'est-à-dire que, voilà. Donc, il s'agissait pas à tout prix de faire une espèce de livres apocalyptiques il fallait qu'il y ait de l'utopie, il fallait qu'il y ait cette espèce d'ouverture, et l'apocalypse en tout cas il y a cette espèce d'idée de recommencement, enfin en tout cas on fait table rase de quelque chose ou on essaye d'imaginer un nouveau paradigme. Je ne pense pas qu'on puisse faire table rase de quoi que ce soit et je pense pas que ce soit l'idée, et c'est ce que j'essaye de dire. Et d'ailleurs je pense que c'est une assez mauvaise idée de rentrer dans cette idée de la peur qui est très inhibante. Enfin finalement je suis pas non plus dans l'idée de la solution, parce que ça c'est vraiment notre siècle où on veut absolument, et souvent d'ailleurs les gens me demandent même, c'est ce que je découvre, ça me demande mais qu'est-ce qu'on fait après, quelles sont les solutions. Alors il y a plein de gens, gens de la décroissance par exemple, qui ont commencé à avancer des solutions concrètes, et je pense que c'est hyper important d'avoir ces solutions, mais la solution ne sera que collective et quelque chose à inventer dans le futur post-apocalyptique. We'll be right back.
sur une composition de Palo Alto. Jacques Barbéry, de quoi s'agit-il hein?
Alors, il s'agit d'un morceau qui... Il s'agit d'un morceau qui figure sur un CD qui accompagne donc le roman Narcos. Et ce CD est censé donc donner une idée des musiques qui ont lieu dans une boîte, le Lemnos Club de Narcos. Donc c'était imaginer le style de musique qui pouvait passer dans cette boîte, le Lemnos Club, qui est une boîte de la ville de Narcos. Situé dans le roman.
Narcos, c'est le premier volet d'une trilogie romanesque.
C'est les DJ du futur.
Voilà, donc.
Premier volet d'une trilogie romanesque avec La mémoire du crime et Le tueur venu du centaure.
Alors, L'enfer des masques, donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est la continuité, je dirais, chez Jacques Barbéry, de son inspiration, mais sur le plan, je dirais, presque des obsessions et des thèmes. Vous employez dans, je crois que c'est dans Narcos d'ailleurs, l'expression de fantasmothèque. Comme s'il y avait une sorte de grande bibliothèque des fantasmes barbériens dont on sortait ou on rentrait régulièrement les volumes. Et j'ai l'impression que cette idée d'un enfer des masques, expression que vous utilisez déjà dans Narcos, est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir, l'enfer serait peut-être la question de savoir où s'arrête le masque, où commence le masque et comment vivre avec le masque. Il y a véritablement une espèce de sensation infernale de l'illusion et de la dissimulation chez vous, Jacques Barbéry.
Oui, tout à fait. C'est le doute est permanent, en fait. C'est
voilà.
Douter en permanence de la perception qu'on a du monde, de la perception des événements, la perception de soi-même. Que fait-on sur cette planète? Quel est l'univers? Qu'est-ce que l'univers? On parle du Big Bang comme si c'était déjà quelque chose de scientifique, alors que pour moi c'est un petit peu divin quand même, malgré tout encore. Voilà, ce doute permanent sur l'existence. Bon, qu'il faut quand même un petit peu mettre de côté de temps en temps, parce que sinon il est plus possible de vivre. Mais et à chaque fois que je traite de sujets différents, je reviens quand même toujours toujours là-dessus, quoi.
C'est cette idée du masque.
De masque en masque, en cache un autre, en cache un autre, et où se trouve réellement la réalité, en fait.
Alors, dans L'enfer des masques, au cœur du récit, il y a ce personnage de Nora, qui est un personnage qui cherche son père, qui cherche. Et en définitive, c'est pas vraiment une quête du père au sens strict.
C'est
la quête d'une certitude, d'une origine déterminée, de quelque chose sur lequel on puisse prendre appui. Et donc, à partir de là, elle engage une véritable chasse, comme ça, avec l'aide de Régis. Et donc, on traverse tout un milieu étrange, justement, de gens qui créent des réalités virtuelles, d'animateurs de boîtes, de chirurgiens, de médecins. Donc, ils sont un petit peu des mad doctors ou des sorciers fous, des gens qui travaillent un petit peu à mixer, justement, des réalités qui ne sont pas forcément un peu antagonistes. Et pourquoi, justement, tout ça?
Enfin, là, c'est pas tout à fait ça, quand même, parce que finalement, derrière tout ça... Alors là, c'est un petit peu dur parce que ça revient à spolier un petit peu le bouquin, quand même.
Justement, c'est pour ça que je reste sur les
oui.
thèmes.
On part toujours du principe qu'il faut se méfier des intelligences artificielles. Bon. Et que l'humain, lui, par contre, on ne s'en méfie pas. Hein. Bon, enfin, ça, c'est peut-être une grosse erreur. Mais finalement, non, peut-être que une intelligence artificielle pourrait avoir une forme de pensée beaucoup plus structurante et structurée par rapport à la réalité et par rapport au monde qui nous entoure que l'humain, et pourrait donc être un avantage. Alors c'est un petit peu une des facettes du roman,
voilà.
Bon là je peux pas trop en dire, mais
voilà.
qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues là-dessus, quoi. C'est que et surtout ne pas considérer l'humain comme la seule entité capable d'avoir une vision de ce qu'il faudrait faire, ne pas faire. Aussi bien pour s'en sortir que pour aller droit dans le mur, quoi.
Et quand même, dans ce roman, Jacques Barbéry, il y a un mauvais démiurge. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui est un personnage. Donc ça aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce que c'est un élément essentiel chez vous. Quel est le puppet master, l'homme qui tire
oui,
les
ben
ficelles?
Oui, ça, c'est un personnage un peu emblématique de la société actuelle. C'est un personnage qui a un pouvoir immense, qui est riche, qui a un pouvoir aussi bien technologique que financier, et qui croit que tout est possible. Qu'il peut posséder les gens sans aucun problème. Donc c'est ce personnage-là qui refuse la paternité vis-à-vis de Nora, qui la repousse même de façon très violente et elle ne comprend pas pourquoi. Il est même presque prêt à la tuer, et c'est ce qui déclenche un peu la dynamique du thriller, puisqu'elle va à tout prix vouloir savoir
justement,
pourquoi.
Plus on la refuse, plus elle insiste.
Voilà, plus donc, on lui refuse cette reconnaissance, en fait. C'est même pas un amour, mais une reconnaissance. Donc ça déclenche la mécanique du thriller. Et évidemment, elle n'abandonnera jamais, quoi. Elle va faire preuve d'une force mentale forte pour aller jusqu'au bout. Et de l'autre côté, le même personnage fait usage de son pouvoir, mais en manifestant un amour démesuré, un amour tentaculaire sur Priscilla, qui est l'autre personnage féminin du roman. Et cet amour est tellement étouffant que Priscilla, elle-même, ne pourra plus l'accepter et va vouloir s'y opposer. Mais lui pense que c'est pas possible. Tout lui est dû, tout est possible. Et là aussi, elle va devoir aller jusqu'au bout de son parcours, et ça va pas être très facile, quoi.
Avec quand même une obsession récurrente, Jacques Barbéry, puisqu'à l'origine vous êtes médecin. Comment dire que vous avez une formation scientifique.
Dentiste.
Vous étiez dentiste, un art que vous avez exercé pendant 5 ans. Donc vous étiez au contact, je dirais, d'une pratique spécifique qui peut se révéler violente, avec le contact avec une espèce de souffrance très très caractérisée. C'est l'idée du corps, justement, parce que le corps chez vous est quelque chose de tout à fait central, à la fois comme objet de plaisir, puisqu'il y a une érotique violente chez Jacques Barbéry, et en même temps aussi tout ce qui est supplice, tout ce qui est épreuve physique, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est dangereux pour le corps. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette espèce de présence, d'omniprésence du corps dans tout ce que vous avez pu publier.
C'est-à-dire que quelque part, le corps est un bienfait, bien sûr, puisqu'il nous permet de vivre, mais c'est aussi une prison quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent un petit peu à l'étroit à l'intérieur de ce corps qui finit par, au fil du temps, se désagréger pour au final se décomposer. Les personnages essayent de transcender ce corps à un moment donné, c'est-à-dire d'essayer de voir comment aller au-delà, mais tout en restant dans un système charnel, dans un système biologique, peut-être par, justement, hybridation, par collectivisme animal, de trouver des formes d'expansion, en fait, charnelle, biologique, pour éviter, quelque part, c'est un peu la peur de la mort, peut-être, finalement, pour éviter cette prison figée dans le temps, dans un espace de temps assez bref. Et il y a toujours ce besoin d'aller au-delà, d'étendre le corps, et donc la pensée, qui pour moi ne forme qu'un finalement avec la matière. Quoi. C'est un. Donc voilà, il y a un petit peu l'obsession.
Est-ce qu'il vous rapproche d'un
biologique cinéaste
fétiche qui est David Cronenberg?
Ah oui, bien sûr.
C'est vrai qu'en lisant
non
seulement L'Enfer des Masques, mais les précédentes œuvres de Jacques Barbéry, que ce soit des nouvelles ou des romans, on a un peu le souvenir, disons, des premiers Cronenberg.
Avec puis Existence aussi.
Absolument.
Par exemple, avec les pods qui permettent
à la fois sur la rage, à la fois sur la contamination,
oui, rage, rabide, bien sûr,
sur la mutation monstrueuse et soudaine du corps, sur cette espèce de violence brute dont le corps est détenteur et qu'il peut livrer. Donc ça, vous êtes
le corps
Cronenbergien.
On ne maîtrise pas toujours, quoi.
Oui. Xavier Mauméjean.
Jacques Barbéry appartient peut-être que Philippe Cadic ou David Cronenberg, ce sont les héritiers de Descartes. Il y a cette espèce de, vous parliez de doute, de doute sur le sujet, de doute sur l'identité, de refus du corps comme identité, en même temps le fait de devoir faire avec, de l'explorer, de cette séduction contrainte. On ne peut pas se débarrasser du corps, on peut le remodeler, le remodifier. Et oui, effectivement, ça fait partie de ces. C'est pas pour rien
les
que chez Dick, le tueur de réplicants s'appelle R. Descartes. Jacques Barbéry en est un des héritiers, assurément.
Jacques Barbéry?
Pardon, je n'ai pas compris.
Vous êtes justement dans cet attrait pour le corps, dans ce refus, dans cette espèce de choix difficile entre l'identité du corps et celle du sujet, un des héritiers, comme Dick ou Cronenberg, de Descartes,
en fait. Oui, tout à fait. Oui, puis alors là, il y a une petite anecdote, je veux. Ouais. Donc, ce qui m'a fasciné assez jeune, c'est le peuple des insectes, en fait. Ce sont les insectes.
Et c'est une de vos passions de jeunesse, ça, les.
Voilà. Et surtout,
les araignées
avec le développement holométabolique des papillons, donc, qui passe d'une larve pour aboutir à un insecte parfait. Et quelque part, je me dis que ça serait pas mal soi-même de pouvoir accomplir certaines métamorphoses qui nous permettraient, en laissant un ancien corps, d'aboutir à un nouveau corps. Et peut-être cela sur une durée beaucoup plus longue.
Cette présence du corps souffrant, cette espèce d'éloquence de la souffrance qu'on trouve parfois, ou du plaisir d'ailleurs frénétique qu'on trouve parfois chez Jacques Barbéry, je trouve qu'elle s'incarne parfaitement, mais alors ça n'est pas un humain qui est en question, c'est un poisson. Alors je vais donner lecture d'un passage de l'Enfer des Masques. Nous sommes dans un restaurant où justement le Damiurge dont nous parlons reçoit et a ses habitudes. Nous sommes ici dans un restaurant spécialisé dans l'ikizukuri. Je répète, l'ikizukuri. Ou sashimi vivant. Le premier plat, en partant de la gauche, présente un poisson entier, mais entièrement pelé et savamment tailladé en lamelles, prêt à être saisi et facilement détaché à l'aide de baguettes. Ce pourrait n'être qu'un artifice de présentation si la tête du poisson n'était pas épargnée, que ses ouïes ne battaient pas et que sa bouche ne souffrait pas en un haut silencieux et assourdissant. Le poisson est vidé, mais le cœur est épargné. Il peut vivre encore longtemps, le temps nécessaire à la dégustation. En tout cas, la chair encore irriguée est excessivement plus goûteuse, vous m'en direz des nouvelles. Mais je vous conseille d'abord les amuse-gueules. Voilà donc un extrait de l'Enfer des Masques. À mon avis, c'est une bonne définition de la vision que vous avez, je dirais, de l'humain, du vivant. Dans sa souffrance, Jacques Barbéry, puisque le sashimi vivant, c'est-à-dire ce poisson qu'il importe de déguster alors qu'il est encore, qu'il réagit et qu'il est sensible à ce qu'on est en train de lui faire subir. J'ai l'impression que l'homme, pour vous, c'est ça. C'est une créature qui est dégustée vivante par un démiurge sombre qui tire les ficelles à l'arrière-plan.
Belle analogie, là, elle se fait avec Nora et Dikowski. C'est voilà. Que ce qu'on inflige au poisson, Dikowski l'inflige à Nora. Voilà. L'analogie est évidente. En restaurant, il lui inflige ce spectacle qui pour elle est insupportable. Et on inflige cette cruauté, la même cruauté aux poissons pour les déguster.
Alors, dernière chose, Jacques Barbéry, vous êtes niçois d'origine, et là, il y a toute une évocation de cette espèce d'univers de la Riviera fin de siècle aussi, notamment au travers de Maeterlinck, au travers de Debussy. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que votre fiction est nourrie de toute une série de références qui ne sont pas, je dirais, traditionnellement celles de la science-fiction. On va aussi bien chez Debussy et Maeterlinck qu'avec Pélias et Mélisande, qu'avec Dick, Cronenberg... Donc on est Chandler, on a cité le Hard Boil. Vous êtes véritablement une espèce de grand vortex, d'un tourbillon extrêmement important.
Oui. Et donc là, oui, ça se passe dans la région de Nice que j'ai très bien connue, et une autre partie se passe en Californie que je connais beaucoup moins. Mais en fait, les deux sont tout autant fantasmés, quoi. C'est-à-dire, je connais très bien la Côte d'Azur, mais c'est une Côte d'Azur un tout petit peu fantasmée, quand même, qui n'est pas la Côte d'Azur tout à fait réelle.
Avec un fantasme qui s'attache tout particulièrement à évoquer des bars, des clubs, des restaurants chics, des cliniques pour milliardaires, qui sont des endroits qui, tout naturellement, nourrissent des fantasmes, des hallucinations, qui peuvent servir justement d'appareils au sens gymnastique du mot.
Les lieux sont voilà, très importants. Lieux. La description des lieux,
des lieux, non pas des cadres, mais véritablement, on peut le dire, des acteurs et des espèces de matrices à l'intérieur des pièces. C'est le lieu qui fabrique sa fiction.
Tout à fait.
Jacques Barbéry, vous avez un lieu de prédilection qui, pour vous, résume un petit peu l'idée que vous vous faites du lieu.
Peut-être Venise.
Venise ?
Oui. Parce qu'on peut se perdre dans des ruelles sans trop savoir où on va aboutir la nuit, l'hiver, lorsqu'il y a du brouillard. On ne sait pas si on va vraiment ressortir. Dans la même réalité ou dans une autre réalité.
L'Enfer des Masques de Jacques Barbéry, c'est aux éditions La Volte. Ludovic de Burme, donc second invité d'un mauvais genre, qui est ce soir à Nantes au festival Utopial, qui fête ses 20 ans, avec donc Epiphania, troisième volet. Et là, je me réfère tout de suite à l'exergue. Où je suis, ça doit surgir. Alors, Epiphania est mise sous le signe de la germination, de l'efflorescence, du surgissement, puisque les personnages, les Epiphanians, sortent du sol au départ. Et là, ce qui sort du sol, dans un volet qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus politique, et beaucoup plus conflictuel que les précédents, enfin, je trouve, ce qui sort du sol, là, ce sont des géants. Ce sont véritablement des titans élémentaires qui incarnent chacun... non pas une saison, mais véritablement l'eau, le pierre, l'eau, le feu, la pierre, les quatre éléments, et qui apparaissent justement du sol, qui sont là un petit peu pour venger la terre, et surtout venger ceux qui y sont persécutés, Ludovic de Burme.
Oui, par rapport à ces géants, je pense que c'est plus l'expression d'une propre colère qui est de...
C'est la colère de la terre.
C'est ma colère à moi.
Voilà.
C'est ma colère à moi qui avait besoin d'être exprimée dans un premier temps avant de, peut-être d'en faire autre chose. Je ne crois pas du tout à cette idée. Je veux dire, la terre s'en fout, hein, clairement, de ce qui va se passer. De manière tellurique, elle va continuer de tourner. Non, là, on est vraiment dans un truc très symbolique. Je fais parler quelque chose de mes propres angoisses. Et puis après, je m'en sers pour peut-être tenter d'aller un peu plus loin et pour reprendre cet incipit de Castoriadis, qui fait référence à une fameuse phrase de Freud, qui est une phrase fondatrice. Je vais vous passer la version allemande. Mais... l'idée, c'était en fait en citant à travers Castoriadis, qui est quelqu'un qui est à la fois un philosophe, un économiste, aussi un psychanalyste, quelqu'un qui a travaillé sur le climat, et à chaque fois avec vraiment une détermination, une espèce il est vraiment allé jusqu'au bout de chacune de ses pratiques. Il a donné cet exemple qui, à mon avis, est essentiel de balayer la spécialisation. Et ce rapport à la spécialisation dans lequel nous sommes plongés et qui empêche réellement d'avoir une vision un peu plus globale des choses. Ce que je voulais dire en citant Castoriadis, c'était bien sûr aller voir du côté de Castoriadis, je reprends cette idée du doute. C'est quelqu'un qui a mis fondamentalement le doute au cœur de sa pensée en permanence, c'est-à-dire même du postulat de base. C'est-à-dire que chez tous les philosophes, il y a quand même un postulat qui est posé, et puis ensuite on doute au-dessus de ce postulat. Ce postulat est rarement repensé dans ses fondements, ça arrive. Mais vraiment, chez Castoriadis, il y a vraiment cette idée à la fois de repenser ce postulat dans un doute permanent, et aussi de ne pas faire, de ne pas être un maître, de ne pas être un gourou, de ne pas être ce qui a fait qu'il a été un peu plongé malgré tout dans une forme d'incognito, comme Jacques Ellul, comme ces gens-là. Mais c'était aussi une façon, en citant cette partie psychanalytique de Castoriadis, de dire ce texte, enfin cette BD, part de l'intime, de la psyché de l'individu, pour aller vers le collectif, et qu'en fait il y a des choses qui sont en correspondance et qui ont des choses à se dire entre ces titans géants et entre ce petit homme, une petite hybride qui sort de terre et qui va rencontrer un père, et donc une histoire de paternité, une histoire filiale. On est vraiment dans la sphère psychanalytique. Il y a quelque chose à dire sur la sphère politique beaucoup plus globale et géopolitique.
D'autant plus, c'est un album qui est vraiment au cœur du politique, avec la puissance de l'État, la puissance de l'armée, enfin toutes les forces répressives, parce que ce n'est pas une armée au sens classique, et puis la persécution des minorités, et notamment tous ces hybrides entre l'homme et l'animal, qui sont porteurs de crocs, qui sont porteurs de cornes, qui sont qui ont des pattes qui ne sont pas les pseudopodes humains, enfin les membres humains traditionnels. Ça commence...
J'ai une vision quand vous me dites ça. D'un seul coup, je vois ces gilets jaunes. Alors, je ne parle pas vraiment du gilet jaune de la première heure, mais de la seconde heure, on va dire, dont on enlevait même jusqu'aux masques à gaz ou aux protections, quoi. C'est-à-dire, et puis bon, je pense aussi aux animaux, aux truies qu'on édente pour pas qu'elles se blessent entre elles, etc.
Alors justement, là, il y a des casques qui sont d'une violence terrible. On voit des personnages dont les cornes sont sciées, et avec en plus, avec une espèce de les mêmes scies qu'on utilise pour découper le gigot, donc c'est un côté, une espèce de proximité presque quotidienne, avec le bruit qui est noté.
Oui, avec des instruments.
On leur arrache les crocs. Il y a véritablement, on commence avec cette violence, et c'est aux titans chtoniens qui sortent de terre, de les venger. Parce que c'est eux qui vont justement...
Oui, je pense qu'il y a aussi cette idée...
face à ce pouvoir qui nous enlève nos armes et notre possibilité de réfléchir et de repenser cet imaginaire qui a été perdu, qui a été remplacé par une force d'un imaginaire consumériste et économique, pour dire les choses vraiment simplement. Et face à l'événement et à la tournure des choses, on passe à un moment dans une sphère d'impuissance qui est absolument désarmante. Voilà, parce que là, c'est le cas, ils sont désarmés. Mmh. Et moi, ça a été un moment important de comprendre que l'impuissance, au contraire de la puissance, ce n'était pas l'impuissance, mais qu'il y avait un rapport aussi possible à la non-puissance. Il y avait peut-être un pas de côté à faire.
C'est plutôt Gandhi, là. La puissance dénuée de la vérité.
On peut même aller jusque au taoïsme et au non-agir.
Voilà,
oui, absolument. Mais oui, je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Après, il faut avoir... on peut pas désolidariser notre société occidentale. Je veux dire, on a une injonction comme ça très forte dès les premiers versets de la Bible sur l'asservissement, la domination de l'animal et de la nature. On s'est forgé là-dessus, donc il va falloir trouver quelque chose à partir de là. Mais je pense en tout cas que cette impuissance n'est pas la seule voie à ressentir. Hein, je parle vraiment...
Xavier Mouméjean.
Vous évoquez l'impuissance et il y a quelques minutes le risque des catégories figées avec Castoriadis. Moi, je pensais que dès son principe de Epiphania provoque un sentiment de sublime chez le lecteur. Il est terrassé, il n'arrive plus à penser un peu comme Stendhal s'effondrant, le syndrome de Stendhal au sortir de l'église de Santa Croce. L'esprit est pris par cette espèce de déluge de puissance, de sentiment que génèrent les images pour après, dans un deuxième temps, penser. Mais penser autrement, penser peut-être mieux. Et je me demandais... où va Epiphania, et je me demandais si cette question était légitime, parce que on évoquait Cronenberg tout à l'heure. Moi, je penserais plutôt à votre égard à David Lynch, c'est-à-dire que vous invitez d'une certaine manière votre lecteur à tirer lui-même les fils de l'intrigue, à recomposer lui-même votre création.
Oui, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Dans le même sens que l'improvisation est une invitation, je parle d'improvisation musicale, est une invitation au dialogue avec l'auditeur qui n'est plus qu'un auditeur. On ne fait jamais deux fois la même improvisation selon les gens qu'on a en face. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Moi, en tant que musicien, c'est quelque chose que j'ai très tôt ressenti et que j'ai eu envie de garder dans le dessin. Et c'est pour ça que tous mes premiers ouvrages sont improvisés, à la différence de celui-ci qui a été davantage écrit. Mais toutefois, vraiment, l'idée, justement, en avançant et en prenant conscience de ma propre emprise, enfin de l'emprise de notre société sur mon imaginaire d'imagier, de fabricant d'images, ça m'a amené à réfléchir, à décoloniser petit à petit cet imaginaire. Donc, il était hors de question que je supplante l'imaginaire du lecteur par mon imaginaire. C'est plutôt proposer des images fortes et puis peut-être faites-en quelque chose, quoi. Oui, c'est évidemment l'idée.
Avec à la fin la vision d'une sorte de tsunami colossal, une sorte d'apocalypse qui ravage New York, qui ravage la ville, Ludovic de Burme. Là aussi, est-ce que vous êtes proche de cette espèce de sensation apocalyptique?
Alors, c'est pas la fin, c'est le,
enfin, la fin,
c'est,
je veux
c'est
dire,
le milieu, à vrai dire, ça devait être la fin du deuxième tome.
C'est la fin de la ville, mais c'est pas la fin de la ville.
Ouais, c'est la fin de quelque chose. C'est une vision, enfin ça fait partie des possibles, c'est-à-dire que là on est entre deux moments, on sait où, à peu près où on est, on sait pas vraiment où on va, et là entre les deux il y a un trou et on a très envie de remplir ce trou, comme toute aspérité nécessite d'être rempli. Moi-même j'ai besoin de remplir d'images. Alors c'est une vraie question que je me pose en donnant une vision à ce cataclysme. Est-ce que je participe pas à l'acceptation de cette vision, hein? C'est vrai,
une sorte de fatalisme d'acceptation.
Fatalisme d'acceptation, puis aussi de ce qui n'est pas regardable. À partir du moment où ça n'est pas regardable, ça n'est pas imaginable, ça demande à être réfléchi. À partir du moment où je fige une image, je donne d'un seul coup, j'esthétise aussi quelque chose. Il y a vraiment un paradoxe. Je questionne moi aussi vraiment cette.
Alors vous l'esthétisez, mais pas tant que ça, d'ailleurs, parce
J'espère.
Que cette vague qui fait penser d'ailleurs à la célèbre représentation japonaise, n'est pas, elle est grise, elle est plombée. Il n'y a pas vous détaillez pas la submersion. C'est une espèce de gigantesque phénomène qui abolit la ville, mais sans détailler. Alors que par contre, les titans qui détruisent les tanks, qui détruisent les machines, qui piétinent les miliciens et qui vengent d'une certaine façon les épiphaniens torturés, eux, ils sont l'objet d'une, véritablement d'une sorte de... C'est de l'orfèvrerie. Ils sont extrêmement détaillés. On sent que le moindre élément esthétique a été pensé. Au contraire, le grand raz-de-marée, lui, il est d'une manière globale et soudaine.
Oui, alors il y a quand même une espèce d'arche de Noé à bord d'un chalutier improbable.
Mais avec d'autant plus qu'un chalutier ordinaire. Il n'y a pas de solennisation de la chose.
C'est ça. On sauve ce qu'on peut et le chalutier finit par les eaux redescendre. Et puis... ça, c'est là où on s'aperçoit que ce qui en est sorti, ce sont ces titans. Mais je pense encore une fois, voilà, ce sont des expressions de ma propre angoisse. Et en gardant à l'esprit toujours, et ça a été pour moi un travail extrêmement important, de faire le lien entre la menace personnelle que je porte depuis l'enfance en moi, une menace familiale, une menace intérieure, et puis cette menace qui d'un seul coup devient globale. Et je pense que c'est vraiment important, si on commence à penser ces choses-là, ou en tout cas à écrire dessus, à les différencier. N'importe quel discours militant devient caduque à partir du moment où ça reste complètement pris dans une confusion. Et en même temps, c'est un moteur. C'est-à-dire que notre menace intérieure a des choses à dire sur cette menace globale, et notamment en rapport avec l'autolimitation. C'est l'autolimitation du désir, pas au sens punitif. On n'est pas dans une espèce de rapport comme ça. Parce qu'il y a des grandes théories maintenant qui commencent à faire des grandes théories, des petites théories qui commencent à sortir où on revient comme ça sur la limitation, la nature qui pourrait donner une mesure, et on arrive sur des anti-IVG, etc. Il y a vraiment tout un mouvement de la limitation.
La nature est sans mesure.
Une espèce nouvelle écologie qui fait peur. Voilà, il y a plein de courants là qui peuvent émerger, dont il faut se méfier. Mais l'autolimitation du désir, c'est quelque chose d'essentiel au sens intime. Ne pas désirer ce qui n'est pas désirable, mais au sens collectif. Et là, on peut se questionner justement sur la notion de progrès. Il ne s'agit pas d'éradiquer le progrès, il s'agit de questionner le progrès. C'est vraiment la technique qui est intimement liée au néolibéralisme.
Ludovic de Boerm, le troisième volet d'Epiphania, c'est aux éditions Casterman.
People shook him by the hands and laughed at him and talked behind his back. Michael didn't know the rules, abused, confused at all the schools they sent him to gave him the view to leave. Michael's got a gun, now he's living on the hill. Watch the people run, shooting down the kids at play. He'll teach them all to stay away. Mother screaming, running around. No one laughs at Michael now. Out the classroom windows to the hill, which made him feel so good. He thought he'd like to have it as a home. People never spoke to him, ignored, deplored. He got so bored, he ran away and bought himself a gun. Michael's got a gun, now he's living on the hill. Watch the people run, shooting down the kids at play. He teach them all to stay away. Mother screaming, running round.
On termine ce mauvais genre en direct du 20e Utopial de Nantes par trois préconisations, comme on dit, Xavier Mauméjean. Alors d'abord, je signale le numéro de septembre de la revue Le Visage Vert, toujours aussi passionnant dans sa quête, alors justement, de l'érudition fantastique, avec notamment une nouvelle d'Arthur Macken, et puis la suite de l'enquête de Michel Meurger sur les loups et les loups-garous, et puis publié par Le Visage Vert, un recueil inédit de Maurice Renard, Celui qui n'a pas tué. Je signale aussi le 96 numéro de la revue Bifrost consacré à William Gibson, et puis quelques mots rapides d'une publication Monsieur Toussaint Louverture, Xavier, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle.
De Juan O'Grady, merveille, un livre d'enfants mais qui n'est pas forcément pour les enfants. Deux gamins turbulents, Barnaby et Christy, se retrouvent sur une île qui a été entièrement privée de, de sa jeunesse, puisque tous les hommes sont morts à la guerre, il reste que des vieux, il reste que des tombes, et il reste un cougar dans la forêt qui est l'un des narrateurs. Et Barnaby va voir l'arrivée de son oncle, et il s'avère que son oncle dissimule ses yeux derrière des lunettes noires, a les paumes des mains velues, veut tuer Barnaby. Et ben, les enfants vont réagir dans la mort ambiante comme on s'y attendait, ils vont chercher à le tuer.
Et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Merci Jacques Barbéry d'avoir été l'invité de Mauvais Gens. Je rappelle votre dernière publication, donc L'Enfer des Masques, c'est un roman aux éditions La Volte, et puis Ludovic Deber, merci également.
Merci.
C'est aux éditions Casterman, le troisième volet d'Epiphania. Je salue l'équipe technique de Radio France, Christian Lahondès, Christophe Papon, Alex James et Benoît Gégaud, et toute l'équipe de Mauvais Gens, Thomas Duterre, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Xavier Mauméjean et François Angelier. On se retrouve la semaine prochaine, où cette fois ce sera Huysmans, j'imagine, un auteur que vous avez dû lire, Jacques Barbéry, qui sera à l'ordre du jour avec, bien sûr, la sortie de ses principaux romans en Pléiade. Et d'ici là, bonne nuit à tous et merci au public d'avoir été présent.